Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour découvrir avec vous de nouveaux morceaux, de nouveaux chefs-d'œuvre de la musique sacrée. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous des œuvres qui me sont chères d'un point de vue sonore, d'un point de vue musical et même d'un point de vue affectif. Et je me disais que pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, eh bien, ce serait l'occasion de partir avec de la belle musique en tête. Alors voilà, je voulais vous faire découvrir quelques-unes de ces œuvres, peut-être redécouvrir parce que la première est en tout cas extrêmement célèbre. On va commencer sans plus attendre par en parler. Il s'agit de la Passacaille et de la Fugue en Do mineur de Jean-Sébastien Bach, une de ses œuvres les plus monumentales, en tout cas pour les organistes et pour les musiciens. C'est considéré comme peut-être son œuvre la plus aboutie, avec l'art de la fugue et peut-être d'autres œuvres, mais celle-ci a une place à part dans le panthéon de Jean-Sébastien Bach à plus d'un titre. Déjà par sa monumentalité, c'est une pièce qui dure à peu près un quart d'heure, un petit peu moins, et qui est pleinement, qui se dévoile, vous allez l'entendre, et notamment par les petites clés d'écoute que je vais vous faire. Et ensuite, bien entendu, par sa musicalité, vous allez entendre là aussi d'un point de vue sonore et musical, Jean-Sébastien Bach a signé un véritable chef-d'œuvre. Il s'agit d'une œuvre dont on ne connaît pas précisément la date de création, probablement entre 1706 et 1713. Elle a été composée en tout cas après le retour de Bach de Lübeck. Ça c'est important parce que Jean-Sébastien Bach a été une grande partie, enfin, il venait d'une très grande famille de musiciens, mais il s'est formé tout seul et il a décidé d'aller voir le maître de Lübeck. Il s'agit de Dietrich Buxtehude, un immense maître de la musique baroque allemande. Et Bach est allé un petit peu prendre quelques nouvelles de lui et également apprendre de lui. Et ensuite, son style s'en est retrouvé très modifié, on va dire, très modifié. Et c'est toutes ces influences que nous allons entendre. Alors, cette Passacaille, je vous le disais, est étonnante à plus d'un titre. Et vous pourrez peut-être vous poser la question, pourquoi est-ce que je parle d'une œuvre qui n'est pas sacrée? Eh bien, parce que, comme d'habitude chez Jean-Sébastien Bach, il y a un lien entre le profane et le sacré. Vous allez l'entendre avec toutes ces clés de lecture qui sont nombreuses. L'ouverture de cette Passacaille est extraordinaire. Alors déjà, qu'est-ce qu'une Passacaille? Il s'agit d'une forme d'ostinato. Ostinato en italien, ça veut dire obstiné. Il s'agit de la répétition inlassable d'un même thème. D'ailleurs, dans cette Passacaille et fugue, vous allez entendre le thème 21 fois, c'est énorme. Donc pour avoir une idée d'ostinato, par exemple, pensez au boléro de Ravel. Donc vous avez un thème de 8 mesures, dont la première moitié de ces 8 mesures proviennent d'une messe pour orgue d'André Raison. Il s'agissait là d'un organiste français que Bach admirait. Bach, là aussi, on peut voir son génie, c'est-à-dire qu'il avait cette façon de prendre, ici et là, en Italie, en France, en Angleterre, les thèmes qui lui semblaient chers, parce qu'il admirait ces musiciens-là, et ça prouve son immense connaissance de la musique de l'époque. Et donc là, on a une première référence à la chrétienté, parce qu'il s'agit donc d'un extrait de messe. Et ensuite, ce thème est donc répété, je vous disais, 21 fois, et donc cette série se fait sous forme de variation, c'est-à-dire que vous allez entendre le même thème, mais peu à peu modifié, avec des registrations différentes, etc. Et c'est tellement bien fait que Robert Schumann disait qu'on ne cessait jamais d'être étonné de ces variations-là. C'est là aussi un véritable chef-d'œuvre, et la symbolique se poursuit. Les variations se composent en 7 groupes de 3 variations. Ces 7 groupes présentent chacune un temps liturgique. L'attente, la naissance, l'enseignement, la passion, la mort, la résurrection et la vie éternelle. Le chiffre 3, quant à lui, très présent chez Bach, c'est bien entendu la Trinité que l'on va retrouver dans la fugue, mais c'est également quelque chose qui est très fort puisque c'est prégnant dans toute l'œuvre puisqu'elle est écrite à 3-4, donc il y a 3 noirs dans chaque mesure. La fugue elle-même est assez particulière puisque le thème de la Passacaille est lui-même pris comme thème de fugue, comme sujet, on va dire. Il va y avoir un sujet et 2 contre-sujets, et là aussi, je vous en parlais, il s'agit de la Trinité. Le premier sujet, c'est le Père, en valeur longue. Ensuite, il y a le contre-sujet, le Fils, qui est un sujet descendant, et enfin, l'Esprit-Saint, qui lui est beaucoup plus évanescent. Et à la fin de cette œuvre monumentale, vous allez voir, le thème du Père, en valeur longue, embrasse le thème du Fils et du Saint-Esprit, formant un espèce de tout global qui vient magnifier ce thème de la Sainte Trinité. Je vous laisse donc avec toutes ces clés de lecture. Écoutez donc ce chef-d'œuvre, la Passacaille et fugue en Do mineur de Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
c'est donc sur cet sublime accord de Do majeur, finalement, que se termine cette œuvre absolument extraordinaire. J'espère que vous en avez apprécié tout le sel et toute la teneur, avec ces clés de lecture si profuses, c'est toujours le cas chez Jean-Sébastien Bach, et voilà toujours ce lien évident entre le profane et le sacré, ce lien constant qui a fait toute la vie de Jean-Sébastien Bach, et qui fait que cette musique a tout à fait sa place dans cette émission, et bien entendu dans nos oreilles, tellement c'est beau, tellement il faut que nous en profitions, et je vous invite bien sûr à découvrir toute l'œuvre pour orgue de Jean-Sébastien Bach, parce que là aussi, il y a un grand nombre de chefs-d'œuvre. Maintenant, on va tout à fait changer d'ambiance, vous savez que j'aime beaucoup faire ça, et notamment lier Jean-Sébastien Bach, qui était quand même à une époque d'une grande modernité. Là aussi, on pourrait faire une émission sur la modernité chez Jean-Sébastien Bach. Si cela vous intéresse, d'ailleurs, vous pouvez réagir sur l'émission et vous pouvez m'en parler. Si vous voulez que je fasse un sujet sur cela, ça sera avec plaisir. Et il y a donc cette modernité chez Jean-Sébastien Bach, bien qu'on soit dans les codes et les canons, bien entendu, de la musique baroque. Là, on va aller au 21e siècle avec, vous le savez, l'un de mes compositeurs préférés là aussi, Arvo Pärt, Arvo Pärt, si on veut vraiment le prononcer comme il faut. Il y a chez lui quelque chose d'extraordinaire, vous savez, je vous le dis régulièrement, pour ceux qui ne me suivent pas régulièrement, vous savez que j'aime ce compositeur, non seulement parce que d'un point de vue sonore, c'est absolument extraordinaire, une ambiance tout à fait particulière, mais en plus parce qu'il y a ce respect de l'ancien, avec parfois ses options syllabiques, comme sa Missa Syllabica, qui vient faire une référence au grégorien syllabique, également ses références au plein chant, et d'autres références absolument extraordinaires. Ici, je vais vous faire découvrir des extraits de son Magnificat Antiphon. Alors là, ce sont diverses petites pièces qu'il a fait sous forme presque d'adoration, de courte méditation absolument magique. Je vous invite à découvrir la première, Ô Weisheit, Ô Sagesse extraordinaire, avec en exergue les voix aiguës, ténor, alto, soprane, qui sont là comme une espèce de nappe de nuages pour nous mettre dans un état d'extase, et de temps en temps les basses qui viennent compléter harmoniquement ça. Donc songez que c'est la première pièce de ces Magnificat et de ces antiphons du Magnificat extraordinaire qui nous met dans cet état presque de transe. Voici donc le Ô Weisheit de Arvo Pärt. Et c'est après avoir évoqué la sagesse et mettre l'auditeur dans cette condition si spectrale, si crépusculaire, que naturellement, la musique va s'ouvrir peu à peu, et là on va arriver dans le deuxième morceau, au Adonai, avec quelque chose de totalement différent, vous allez entendre, avec les voix graves, avec des quintes à vide qui laissent leur place à l'harmonie, mais également à la possibilité, S majeur, S mineur, S tonal, S modal. Toutes ces questions pour évoquer le Seigneur, et bien entendu les voix les plus graves avec des basses, même des contrebasses, qui viennent chanter l'ampleur de l'incarnation également, parce que c'est toute la complexité de Dieu, c'est celui qui regarde vers les hommes, qui regarde vers le péché des hommes, qui regarde vers toute la condition humaine et son péché, c'est ce que l'on ressent dans cette deuxième antiphon, extraordinairement puissant d'un point de vue musical, vous allez l'entendre, sublimé par les basses qui font comme un espèce de grand bourdon qui dure 2 minutes, dans lesquelles la musique a peine presque à s'extraire tellement la lourdeur du péché semble peser sur les épaules des hommes, et si Dieu constatait avec tristesse ce péché-là, c'est donc ce deuxième morceau, Ô Adonai, cette supplique teintée d'une grande lourdeur et presque d'une commisération que vous allez entendre, qui fait suite à cette sagesse si éthérée, si extraordinaire. Là aussi, une musique de contraste sublimée par le génie extraordinaire d'Arvo Pärt. Voici donc le deuxième antiphon de ces sept magnificates de Arvo Pärt, O Adonai. Et c'est suite à cette musique qui annonce presque le tombeau et la souffrance que s'ouvre le reste des antiphons extraordinaires de Arvo Pärt. Je vais en sauter quelques-uns pour vous évoquer l'un de ceux que je préfère. C'est le numéro 5, O Morgenstern, c'est-à-dire O étoile du matin, cette espèce d'espoir au milieu de cette désolation qui vient presque consoler le cœur des hommes. Extraordinaire, vous allez l'entendre par le biais des harmonies, on retrouve le style tintinambuli que Arvo Pärt a constitué, a créé, et il y a ces espèces de silence extraordinaire qui laisse les cieux ouverts presque vers cette Morgenstern, vers cette étoile que l'on voit au loin, qui est un petit peu en dichotomie entre ce ciel extraordinaire et ouvert et en même temps le péché terrestre. Vous allez entendre là aussi une musique extraordinaire, O Morgenstern donc, de Arvo Pärt.
Thank you.
Et c'est sur cet accord diaphane que se termine ce O Morgenstern de Arvo Part. Je vous invite, si ce genre de musique vous a plu, à découvrir l'intégralité de ces 7 antiphons de Magnificat d'Arvo Part, tous plus beaux les uns que les autres, naturellement. Mesdames et messieurs, j'espère que ce tour musical vous a plu. Bien entendu, je vous en proposerai d'autres tout au cours de l'été. D'ici là, j'espère que vous porterez bien, chacune et chacun d'entre vous, et je vous dis à très bientôt sur Point d'Orgue.